Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est le 35e épisode de ton podcast préféré Spiritualista. C'est aussi le dernier épisode de cette année 2021, quelle année incroyable hein. Donc dans cet épisode, mon invitée c'est Alexandra Frida, la grande prêtresse de l'école des 13 lunes. Vous allez découvrir tout ça dans cet épisode. Vous allez voir, il est hyper riche cet épisode, on y parle de féminin sacré, de l'importance des rituels, de l'archétype de la mère et de tous les autres, du lien entre la puissance et la vulnérabilité. On décrypte le mythe de la petite sirène, on parle des célébrités, des divas, en quoi Rihanna, Madonna, Beyoncé sont des archétypes très puissants, on parle des cycles, des saisons, de leur influence, bref, vous allez voir, c'est énorme, beaucoup d'informations dans cet épisode. Stop le blabla, c'est parti pour l'épisode 35. Spiritualista. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Spiritualista, je suis accompagnée de la créatrice de l'École des 13 Lunes. C'est son espace de transmission et de partage autour du féminin sacré. Alors, la mission de mon invitée, elle est de nous permettre de nous reconnecter à notre puissance, notre beauté et notre vulnérabilité. C'est un gros programme. Mmh. Alors, j'ai rencontré Alexandra Frida l'année dernière, puisque j'ai suivi son école initiatique. Alors, moi, j'ai été complètement fascinée de découvrir les différents archétypes du féminin. La muse, la doula, l'amoureuse, la mystique, la femme sauvage, la mère. Mon invitée, Alexandra Frida, est aussi auteure de Femmes prêtresses aux éditions Le Duc et Zo. On en reparlera pendant notre entretien. Prêtresse, chamane, magicienne, gardienne de la déesse. C'est un immense bonheur pour moi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Alexandra. Bienvenue dans Spiritualista.
Ah, merci mille fois pour cet accueil. Je suis vraiment ravie de passer ce moment avec toi.
Alors, pour commencer, Alexandra, est-ce que tu peux nous parler de ton école initiatique, l'école des 13 lunes?
Alors, l'école des 13 lunes, c'était à l'origine, en fait, des ateliers que je faisais à Paris pour pouvoir transmettre chaque mois des enseignements sur les archétypes féminins. Donc, en fait, à l'origine, c'était des ateliers en présentiel. Et puis, avec le confinement, il a fallu basculer tout ce contenu en ligne parce que j'avais un groupe de femmes en fait qui suivaient avec pas mal d'attention ces ateliers, puisque chaque mois en fait le contenu était différent parce qu'on abordait un archétype féminin différent. Et donc on a basculé tout le contenu en ligne et à ma grande surprise, c'était le bon moment je pense et le contenu et le format a fonctionné. Voilà. Et à l'origine, donc c'est une école des mystères. On appelle ça une école des mystères. C'est une école que j'ai suivie moi-même. C'est une école que j'ai suivie moi-même, qui avait été créée par deux femmes prêtresses américaines, qui avaient une cinquantaine d'années et qui avaient dans leur vie finalement accumulé peut-être 20 ou 30 années de recherche en fait et d'expérimentation dans ces voies de la prêtresse et dans plein de rituels et d'enseignements mythologiques païens. vins, tu vois, toutes sortes de choses comme ça. Et elles se sont réunies pour créer une école autour voilà, de tous ces rituels féminins en explorant et en découvrant des archétypes féminins. Bon, après, je peux en parler de façon plus détaillée après, mais grosso modo, voilà.
J'ai vu que sur ton site, pour toi, c'est très important de préciser voilà, d'où te vient cette transmission et toute cette connaissance. Oui. Donc, ces deux prêtresses américaines sont Sienna Sherman et Ashley Turner. Comment tu les as rencontrées? Comment on rentre en contact avec des prêtresses?
Écoute, de façon très moderne aujourd'hui, en ligne. en réalité, je suivais un professeur de yoga américain que j'avais découvert à Venice Beach, en Californie. Et il s'avère que c'était un super ami de Sienna Sherman. Et un jour, c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 7-8 ans, un jour, il faisait un live Facebook pour célébrer un portail énergétique d'une saison. Donc, je savais pas qu'on pouvait célébrer une équinoxe ou un solstice, en fait. Et donc, pour célébrer cet équinoxe, je crois que c'était à l'époque, ou peut-être un solstice, je ne me souviens plus, il avait invité Sienna en disant que c'était une grande protectrice de la déesse, une magicienne, etc. Enfin bref, et juste quand Sienna est un peu, dès qu'elle s'est mise en live et qu'elle a commencé à nous transmettre des transmissions sur la mythologie, sur le phénix, sur voilà toutes sortes de choses incroyables, ça a été une rencontre fatale quoi en fait. Hein. Tu sais ces moments où tu bois les paroles de la personne, où t'as des frissons un peu partout et tu te dis mais waouh quoi, j'ai l'impression que mon cœur, mon corps et mon âme comprennent tout ce qu'elle est en train de dire. Voilà, donc après, je l'avais suivie. Et à l'époque, elle n'avait pas encore créé son école avec Ashley. Mais donc, je suivais un petit peu tout ce qu'elle faisait. Et puis voilà, quand elles ont annoncé la création de cette école, qui était quand même assez unique, parce que je crois qu'il n'y avait pas d'école comme ça en ligne. C'était quelque chose de très, de plutôt secret, en fait. De plutôt, qui se transmettait que par voix, que à l'oral, en fait, et avec des rassemblements lors de pèlerinages ou de retraites. Mais il n'y avait pas vraiment de contenu en ligne ou même dans les livres, en fait. Donc, voilà, donc dès qu'elles ont proposé ça, même si j'y comprenais pas grand-chose, pour être honnête, au début, enfin, je savais pas ce que c'était qu'une prêtresse, même les archétypes féminins, j'avais une vague notion de ce que ça pouvait être, mais je comprenais pas en quoi ça pouvait être un chemin initiatique pour moi. C'est vraiment que en le faisant, en fait, que je me suis rendu compte de toute la portée.
Mais moi, ce que ça m'a apporté l'année dernière, j'ai suivi. Donc toi, c'est ce que tu proposes, c'est 6 mois et 6 mois en fait d'intégration et d'initiation. Moi, j'avais pris, ça m'avait accompagné en l'automne et l'hiver dernier. L'hiver. Donc du coup, il me reste encore 6 mois à faire. Mais l'intégration déjà de ces 6 premiers mois. En plus, il y avait mon mois de naissance à l'intérieur vu que je suis du mois de novembre, le Sagittaire. Donc c'est la femme sage. Et ça m'a tellement parlé, ça a remué énormément de fréquences en moi et du coup d'émotions et de souvenirs. Et je te remercie en live pour cette transmission, pour les connaissances que tu transmets et la bienveillance avec laquelle tu le fais, parce qu'il y a aussi des lives auxquels on peut participer tous les mois avec toi et poser des questions, et c'est sublime et magnifique. Et en fait, je voulais te demander, toutes ces connaissances ancestrales, comment s'y prendre en fait pour... Parce que moi, comme toi, tu vois, tu l'expliquais que pour toi, au départ, c'est nouveau, donc t'es là, tu découvres, ça n'a pas trop de sens, c'est de la mythologie et tout ça. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une connaissance au-dessus de la connaissance qui parle directement à notre esprit et notre âme, et ça crée un effet de résonance où même si notre mental ne comprend pas, notre âme comprend.
Tout à fait. Parce que en fait, bon, je le dis assez souvent, mais parce qu'en fait, on n'apprend rien, en fait. On fait que se souvenir de choses qu'on sait déjà, tu vois, que notre âme et que notre énergie féminine sait déjà. C'est pour ça que c'est des transmissions, ce sont vraiment des transmissions d'énergie, de rituels, d'histoires qui préexistent, en fait, dans nos cellules, qui préexistent même dans le transgénérationnel. Et donc, en fait, quand une femme comme ça s'avance et vous propose de vous chuchoter en fait les mystères du féminin, de vous raconter les secrets et les histoires du féminin, eh bien waouh, il y a quelque chose qui vient s'allumer comme une flamme, parce que on tend l'oreille et on se dit mais je le sais en fait, ça je l'ai toujours su, c'est juste que j'arrivais pas à remettre les pièces du puzzle, en fait je le savais mais de façon démembrée, de façon désossée. tu vois. Et là, d'un coup, il y a tout qui se rassemble, il y a tout qui se réunifie, en fait, à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que ça devient un chemin extraordinaire, tu vois, de connaissance de soi, parce que tu as l'impression que tu te rassembles, tu vois, tu te réunis intérieurement. Toutes les parties de toi-même. Et ça, c'est aussi le chemin des archétypes qui est extraordinaire. Parce que tu vois, donc les archétypes, elles interviennent avec les saisons et avec les nouvelles lunes, en fait, avec les cycles lunaires et avec nos cycles menstruels, tu vois. Et en fait, il faut vraiment imaginer que sur une année solaire, il y a entre 12 et 13 cycles. Bon, il y a forcément 12 et 13 cycles lunaires et nous, a priori, on a à peu près le nombre de cycles menstruels. Et donc, en fait, cette cyclicité, tu vois, elle est présente. On a des saisons intérieures, tu vois. On vit cette cyclicité tous les mois. On a une opportunité, tu vois, d'aller à la rencontre d'une partie de nous-mêmes, d'aller vraiment, tu vois, d'aller vraiment chercher cette partie de nous-mêmes qui demande à éclore, qui demande à vibrer. Et puis ensuite, tous les mois, cette partie-là, elle se désintègre, tu vois, avec finalement, on peut utiliser la métaphore de notre cycle menstruel, tu vois, quand toute la cavité utérine se désintègre et ça se termine et c'est la fin d'un cycle. Et elle se désintègre pour laisser place à la prochaine expérience. Et en fait, si tu utilises ça comme une métaphore et que tu transposes en fait des archétypes féminins à la place de tes cycles, eh bien du coup, c'est 13 opportunités d'aller à la rencontre d'une facette, d'une saison et d'une énergie féminine. On est dans cette cyclicité avec nos lunes, avec les cycles menstruels, avec tout ça. Donc ces femmes-là, elles existent, toutes ces transmissions existent à l'intérieur de nous, mais là, soudainement, voilà, c'est comme si quelqu'un allume la lumière, tu vois.
Et c'est un attribut, c'est une puissance, c'est une force qui est tellement liée au féminin. On a aussi l'impression qu'au travers de ces 13, de ces 12 à 13 cycles, la femme a cette capacité naturelle à pouvoir mourir et renaître, mourir et renaître. Et c'est peut-être ça qui donne aussi le plein pouvoir de ce qu'on appelle, voilà, la prêtresse, la déesse du féminin, parce qu'en fait, elle meurt et elle renaît à chaque fois.
Exactement. Et ça, c'est vraiment l'énergie créatrice et destructrice féminine, c'est vraiment l'énergie de la nature, en fait, hein, tu vois, c'est les saisons, c'est comme ça qu'on donne la vie, c'est le cycle naturel de la vie, nous naissons, nous mourons, la nature naît, meurt, les animaux aussi, etc. Et ça, c'est vraiment cette puissance féminine, c'est cette nature cyclique et changeante, en fait. Donc c'est apprendre à déjà en prendre conscience, mais c'est surtout apprendre, moi j'adore me l'imaginer comme ça, me dire qu'en fait on apprend à danser avec nos saisons intérieures, tu vois, c'est une c'est comme une danse rythmique, tu vois, et soudainement, au lieu de se dire mais c'est pas possible, je suis pas normale, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi est-ce que je suis comme ci, pourquoi est-ce que je suis changeante, soudainement on vient embrasser cette danse et on vient la danser parfaitement, tu vois.
C'est pas danse avec les stars, c'est danse avec les lunes.
Ouais, c'est ça. Et parce que ça y est, t'es en rythme, en fait. Être en rythme avec ses saisons, danser avec ses saisons, mais c'est extraordinaire le potentiel qu'on peut aller chercher et qui peut éclore, en fait, tu vois.
Ouais, ça demande aussi une grande souplesse. En fait, on a l'impression que on est dans une société qui est tellement normée et tellement rigide. On nous a tellement balancé des injonctions sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce que voilà. Et et que là, en fait, quand on se connecte aux 13 lunes, on devient beaucoup plus libre et souple dans son approche du féminin. Donc en fait, c'est aussi une quête de liberté quand on rentre dans ce chemin initiatique.
Totalement, et c'est même, je dirais, une invitation à déconstruire, tu vois, à déconstruire justement les dictats, les injonctions, les normes, tu vois, qui nous ont laissé tellement de séquelles, tu vois, qui ont tellement confiné, tu vois, notre âme, notre cœur, notre corps, tu vois, parce qu'on a appris tout ça, ça nous a été transmis par nos parents, par la société, par l'école, par le nombre de fois où on nous a dit comment on devait être. Et donc, en fait, ce chemin vraiment initiatique féminin, c'est vraiment celui de déconstruire. Tu vois, de dire bah ça en fait ça m'appartenait pas, ça résonne pas pour moi, ça c'est pas moi, ça c'est, tu vois, et petit à petit tu viens enlever tous ces vêtements qui ont été posés sur toi et qui te vont pas et tu vas aller chercher tes véritables couleurs, tes véritables accessoires, tu vois, ton parfum, et tu vas aller vraiment embrasser ta vraie nature et toutes les la parure de ton féminin, tu vois.
C'est très intéressant. Et là, j'ai eu un flash en t'écoutant. Je pensais à des artistes de la pop culture, Rihanna, ouais. Beyoncé. Yes. Est-ce que pour toi, elles incarnent justement des archétypes de la prêtresse ?
Totalement. Totalement. Ouais. Je n'arrive pas à voir une célébrité sans voir l'archétype qu'elle incarne derrière. Je suis convaincue d'ailleurs, et je pense qu'elles sont suivies pour cette raison, en fait, hein, parce qu'elles représentent. Elle représente un archétype, elle représente les codes d'une société, qu'une société veut ou souhaite ou tu vois ou veut atteindre peut-être. Et c'est pour ça qu'on est fan. Hein. On est fan parce que voilà, c'est un archétype féminin. Rihanna, Beyoncé, ce sont des archétypes féminins très très puissants.
Rihanna a quand même le tatouage de Isis, tu vois, sur le chakra du cœur. Tu vois, c'est très puissant.
Même je sais pas, même Madonna dans les années 80. Ça a été un archétype féminin très puissant justement pour libérer les femmes. Ça a été une vraie guerrière en quelque sorte avec ce qu'elle a fait, tu vois, de vraiment doser sa sexualité, elle a été très provocatrice, etc. Et, et quelque part, tu vois, les femmes se sont associées à elle, se sont identifiées à elle et elles ont réussi à avancer sur certains points. Donc, non, évidemment, quoi, toutes les célébrités comme ça, c'est trop drôle d'ailleurs de les regarder comme ça. J'étais à un défi de mode là. Il y a deux jours, c'était la première fois d'ailleurs que j'étais invitée à un défilé de mode. Et c'était ça, quoi. Il y avait toutes les modes, toutes les grandes, les grandes top modèles des années 90, Naomi Campbell, etc., qui défilaient. Et en fait, c'était, pour moi, j'avais des archétypes féminins qui défilaient devant moi.
Une fois qu'on arrive à se familiariser avec la vibration de chaque archétype, la mère, la femme sauvage, l'amoureuse, tout ça, ensuite, on reconnaît leur odeur, leur saveur. On les retrouve, quoi.
Chez les autres et chez nous.
Chez nous aussi, selon les moments de la vie. Et est-ce que ça t'arrive de parfois conseiller tes amies féminines? Parce que parfois, j'ai l'impression que la vie nous fait endosser des rôles, des archétypes, et qu'on n'est pas super à l'aise avec ces archétypes. Ouais. Et du coup, comment on s'y prend? Est-ce qu'on doit rester, jouer le jeu, ou on doit switcher? Je prends l'exemple, par exemple, de la mère.
C'est
parfois une injonction.
Ouais. Non, mais le problème de l'archétype de la mère, c'est qu'il y a l'archétype de la mère tel que la société l'a dressé, c'est pas celui que tu vas retrouver dans l'archétype de la mère de l'école des 13 lunes, tu vois, parce que celui que la société a dressé, il est faux en fait. C'est un archétype de la mère qui est un peu comme une sainte, qui doit toujours être dans le sacrifice, dans l'endurance, qui doit être parfaite, qui doit, tu vois, qui doit être il est fatigant presque cet archétype.
Elle est dévouée.
Ouais. Elle est over dévouée, etc. Et donc, il est dur pour nous, tu vois, aujourd'hui. On a presque de la colère envers la façon dont la société a dressé ce portrait, tu vois, un peu de la Vierge Marie. Quoi. La mère, c'est la Vierge Marie, c'est celle qui porte Jésus, c'est celle qui, tu vois. Donc, dans l'école des 13 lunes, on vient déconstruire ça. Hein, c'est vraiment la mère, certes, mais il y a aussi la mère avec toutes ses zones d'ombre, il y a aussi la mère avec ses limites, il y a le fait que la mère n'est pas parfaite et qu'il ne faut pas qu'elle soit parfaite. D'ailleurs, on parle pas mal de ça, que c'est dangereux, une mère parfaite, même pour les enfants et pour son entourage, tu vois. Donc non, je pense qu'il ne faut pas se forcer à incarner un archétype. Par contre, quand on sent que y a un archétype qui est vraiment pas présent et qu'on en aurait quand même bien besoin, eh bien là, il y a toutes sortes de rituels que je propose, il y a des méditations que je propose pour activer cet archétype, tu vois, il y a des lectures aussi. Tout ça, c'est des outils qui sont à la disposition, en fait, des participantes pour vraiment essayer de venir la rencontrer, en fait. Rencontrer, tous les archétypes existent à l'intérieur de nous, tu vois. Donc, c'est plus d'aller chercher la rencontre, tout simplement. Et mystiquement, dès qu'on commence à l'activer, donc tu peux créer un hôtel, tu vois, je donne pas mal de guidances pour aider à activer. Et puis après, il y a la magie de la vie qui fait que mystiquement, il y a des choses qui se mettent en route et qui font que l'archétype commence à vibrer et à s'éveiller, tu vois, comme une belle au bois dormant qui dormait et que pas un prince charmant que les femmes sont venus réveiller.
C'est ça, mais j'adore. Ah, c'est tellement plus sympa, je trouve, que d'autres femmes viennent réveiller la belle au bois dormant pour l'aider, la guider, la faire grandir. Je trouve ça tellement plus chouette.
De rebondir là-dessus, parce que tu sais, je suis pas la première à le dire, évidemment, mais je sais que ça m'avait frappée assez jeune, tu vois, à quel point les contes de notre enfance étaient vraiment sur une morale patriarcale, en fait, tu vois, où mais c'est vraiment systématiquement la femme qui n'est pas complète sans son prince et son chevalier qui vient la sauver, et grâce à ça elle a des enfants, et grâce à ça elle vit heureuse, tu vois. Et on a été tellement biberonnés à ce genre de fairy tales, tu sais, de contes de fées. En plus on appelle ça des contes de fées, c'est-à-dire c'est vraiment waouh, si t'arrives pas t'as tout réussi dans ta vie, tu vois. Et c'est tellement dangereux, je trouve, les dégâts que ça fait, tu vois, en termes de dépendance affective, de, tu vois, ça peut te créer beaucoup de séquelles psychologiques, tu vois, que je trouve que c'est merveilleux maintenant d'inventer des nouveaux contes, tu vois, où c'est la femme qui vient délivrer la femme, tu vois. En tout cas moi c'est ce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire avec les cercles de femmes, avec toutes ces transmissions féminines de femme à femme, c'est qu'on se libère, c'est la femme, c'est une femme qui libère une autre femme, tu vois.
Ouais, mais c'est tellement génial. Ah non, mais ça donne envie de créer des nouveaux contes pour enfants, où voilà, c'est une princesse qui va délivrer une autre princesse du dragon.
Tu sais, une fois dans mon ancienne vie, j'ai rencontré, je crois que c'était Disney ou Pixar, je sais plus qui c'était, c'était Disney, et en fait ils m'ont dit que leur best-seller, le dessin animé qui avait vraiment tout fait exploser après Le Roi Lion, ça a été La Reine des Neiges. Et en fait, ils ont analysé ce dessin animé après coup et ils ont dit qu'en fait, c'était la première fois où c'était une sœur qui délivrait une sœur. C'était pas un homme qui délivrait sa femme. Dans La Reine des Neiges, c'est vraiment les deux sœurs, Elsa et Anna, tu vois, qui se délivrent l'une l'autre. Et en fait, ils ont vraiment analysé ce message en disant waouh, c'est fou parce qu'on a changé la donne et ça a eu un effet de fou, quoi.
Mais c'est pas étonnant, mais bien sûr, c'est tellement dans l'air du temps et c'est tellement. Mais justement, Alexandra, tu nous parlais du fait de ritualiser, de faire des cérémonies pour justement éveiller un nouvel archétype qui manque à notre palette. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les cérémonies et les rituels, c'est si important?
Parce que le rituel, en fait, c'est une autre définition d'un rituel, ça va être de dire que c'est un acte psychomagique. Tu vois, c'est à un moment donné, on travaille avec des énergies qui sont peut-être invisible à l'œil, mais qui sont bel et bien réelles, en fait, parce que c'est la fréquence vibratoire, c'est un champ vibratoire. Et le fait de, à la fois de créer un espace sacré, donc de vraiment délimiter un espace, tu vois, dans le temps et même géographiquement, de dire voilà, ça va être ce lieu, ça va être ce moment, ça va être à telle heure, c'est une façon de convoquer, tu vois, de convoquer tous nos corps subtils. C'est une façon de convoquer, bien sûr, te convoquer physiquement et émotionnellement, mais aussi de convoquer ton âme, ta sensibilité spirituelle et pourquoi pas tes anges gardiens, des maîtres spirituels, des personnes de l'au-delà, des guides que tu ressens et que tu perçois, tu vois. Donc en fait, tu vas convoquer tout ce monde-là à un moment T et tu vas pratiquer quelque chose qui a du sens pour toi, d'accord ? Donc tu vas pratiquer un rituel en y apportant énormément de sens et énormément de symboles. Et ça, c'est ce qu'on appelle un acte psychomagique, c'est-à-dire que ça vient agir comme par magie sur ton champ énergétique et sur ton champ psychologique, tu vois. Ça crée des nouvelles connexions neuronales, ça crée, toutes sortes de nouvelles connexions. Maintenant, c'est pas simple. Si on essaye de le rationaliser, c'est vrai que ça peut être un peu difficile à croire. D'un autre côté, des rituels, on en pratique tout le temps, tu vois, même là en société. On souffle les bougies pour son anniversaire, c'est un rituel et tout le monde te dit de faire un vœu et c'est un rituel de partout, tu vois, dans notre société occidentale. Et on le fait pourquoi? Parce que voilà, on veut se souhaiter, on veut marquer, en fait, tu vois, avec du symbolisme. Et il y a des personnes qui te disent mon vœu s'est réalisé, etc. Donc c'est très puissant, la notion de rituel.
Mais même juste le fait de se serrer la main, pour se dire bonjour ou pour démarrer une réunion, quelque chose, le fait de se serrer la main, cette connexion en fait de main à main, moi je dis toujours que les mains sont le prolongement du cœur, c'est des antennes avec des petits cœurs à l'intérieur des mains, fait passer une information et on ritualise un échange énergétique, le début d'un échange énergétique. Donc, en fait, si on analyse, tous les petits gestes du quotidien qu'on fait inconsciemment sont ritualisés.
Bien sûr. Et ce qui est génial, c'est, enfin, je trouve, c'est quand tu commences vraiment à y apporter du sens, tu vois, à te dire, par exemple, le matin, quand tu prends ta douche, si tu te dis, tiens, je vais prendre une douche intentionnelle, je vais pas que prendre ma douche, ou le soir, par exemple, si t'as passé une journée un peu difficile. Oui, c'est vrai que de se laver, on le voit tout de suite, hein, l'eau est extraordinaire, elle a un pouvoir de purification et de nettoyage qui est très puissant, donc ok, tu peux te laver avec du savon et tout, mais tu peux aussi te dire, je vais y placer de l'intention et je vais vraiment demander à l'eau de me nettoyer de ce que je viens de vivre. Je vais vraiment demander à l'eau de faire couler et de faire partir tout ce qui vient de se passer énergétiquement parlant, parce que j'ai besoin de me resetter. Et tu prends le temps, après t'être savonné, etc., de rester sous l'eau et d'imaginer tous les soucis ou toute la charge énergétique dont tu ne veux plus. Tu la prends, tu vois, tu prends le temps de l'imaginer en train de couler, tu vois. Et ben, c'est extrêmement puissant, en fait, de rajouter comme ça de la conscience et de la cérémonie, en fait, en quelque sorte, à des rituels de notre quotidien. Pareil, quand tu vas inviter des amis à dîner, moi, j'adore créer une table, tu vois, en prenant vraiment le temps de ritualiser ma table. Donc, je vais placer des pierres, je vais faire un mandala d'honneur et je vais vraiment mettre des intentions, tu vois, quand je crée la table avec des cristaux, etc., pour que ce dîner soit un merveilleux moment. Tu vois ce que je veux dire? Des petites choses, mais ça change la vibe, quoi.
Oui, bien sûr. Non, mais oui, les petits détails, les petits gestes faits avec amour, forcément, résonnent de l'amour ensuite pendant toute la soirée. Et ça résonnait vachement avec quelque chose que j'ai vécu, Alexandra, quand tu prenais l'exemple de la douche qui nettoie, justement.
Ouais.
Moi, il y a quelques années, je vivais avec un homme, on se disputait beaucoup à la fin de notre relation et c'était vraiment pas cool du tout. Et je me surprenais tout le temps, après une dispute, à me retrouver, je ne sais comment, dans la douche, nue, avec un jet d'eau sur la tête. Et ça me calmait. Et vraiment, j'avais cette impression que ça nettoyait un peu toute ma bulle énergétique.
Toutes les prises de tête, justement.
Exactement. Et à chaque fois, je me retrouvais dans la salle de bain, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et ensuite, j'ai compris. Ça me faisait du bien, quoi.
Mais ouais, c'est ça. Spiritualista.
Un autre topic que j'adorerais que tu nous poses dans ce podcast, Alexandra, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de femmes et aussi d'hommes qui écoutent le podcast et qui ne savent pas vraiment ce que ça signifie, le féminin sacré. Qu'est-ce que c'est, en fait?
Alors, le féminin sacré, la définition, moi, que j'adore y apporter, déjà, chacun a sa définition, hein, forcément, mais j'aime la retourner sous forme de question en disant... comment est-ce que vous rendez votre féminin sacré? Tu vois? Comment est-ce que, si tu devais rendre ton féminin sacré, qu'est-ce que tu ferais? Tu vois? Et la réponse finalement à cette question, ça va être, ben voilà, l'ensemble des rituels que tu vas peut-être faire pour honorer ton féminin, peut-être ton lifestyle que tu vas changer un petit peu, que tu vas décider de ralentir peut-être, d'aller vraiment à la rencontre de toute ton énergie yin, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment sacraliser ce féminin, cette énergie féminine qui a été si diabolisée et si maltraitée en réalité, parce que quand on ralentit, ça veut dire qu'on est paresseux, ça veut dire qu'on fait rien. Tu vois, quand on est cyclique, ça veut dire qu'on est certainement un peu fou ou qu'on n'est pas stable ou qu'on doit être dérangé. Tu vois, donc c'est quand même, l'énergie féminine a été très maltraitée, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de resacraliser tout ça, de lui redonner sa place et de vraiment... l'honorer, tu vois, la bénir, la respecter. Donc après, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, voilà, en célébrant les saisons, les portails énergétiques justement des équinoxes, des solstices, en célébrant la lune, en prenant le temps d'honorer une nouvelle lune ou une pleine lune, tu vois, et en faisant voilà tous ces beaux rituels qui vont nous remettre en lien avec les saisons à l'extérieur de nous pour pouvoir nous mettre en lien avec les saisons qui existent à l'intérieur de nous. Et c'est valable bien sûr pour les hommes. C'est vrai que là, je prends un parti qui est très féminin, je m'adresse essentiellement aux femmes, mais je sais que c'est en train de sauter tout ça, et heureusement d'ailleurs, c'est vraiment valable pour les hommes. Les hommes évidemment sont sensibles aux saisons, sont sensibles à la lune, aux nouvelles lunes, pleine lune, etc. Après, c'est juste que moi, ma prise de parole et mon expertise, entre guillemets, elle s'adresse aux femmes, mais je pense que d'ici quelques années, ça va certainement changer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Donc voilà, le féminin sacré, c'est ça. Donc le féminin sacré chez un homme, ce sera ça aussi, tu vois. C'est comment il va célébrer, tu vois, vraiment honorer la nature, quoi. Honorer tout ce qu'elle abonde, tout ce qu'elle offre, tu vois, et vraiment le ritualiser, tout ça.
On a vraiment l'impression qu'en fait, plus les femmes se connectent et s'éveillent à leur féminin sacré, plus on a l'impression que ça prend, c'est comme une onde oui. qui expande.
Exactement.
Et que les choses sont justement en train d'évoluer. Parce que se connecter au côté cyclique, à la nature, au vivant, sur le plan par exemple écologique, ça modifie énormément de choses. Sur le plan de la consommation, ça modifie énormément de choses. En fait, se connecter au féminin sacré, on a aussi l'impression que c'est carrément un acte politique.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on appelle un acte écoféministe, en fait. Hein. Tu vois, il y a vraiment... C'est absolument ça, c'est militant. Les cercles de femmes, c'est un acte militant, hein, de vraiment se réunir entre femmes dans un cadre de non-jugement, de non-compétition, de faire tomber les masques, les armes, tu vois, et de parler depuis l'espace de notre cœur, d'écouter depuis l'espace de notre cœur, que chacune ait la même place dans le cercle, qu'il y ait une légitimité. Il y a un pouvoir de guérison là-dedans qui est clairement de l'ordre du militantisme féminin, quoi, tu vois, parce que c'est une façon de venir répondre à toutes les divisions que les femmes ont vécues, tu vois.
Bien sûr. Et ça me fait penser à un livre qui, pour moi, m'a totalement bouleversée. Je pense que tu connais aussi, c'est « Rêver l'obscur » de Starhawke, sur ce sujet-là, sur l'écoféminisme, justement en Californie, aux États-Unis, dans les années 80. C'était des activistes, des militantes. Et en fait, ce livre, moi, m'a totalement bouleversée parce qu'en fait, j'ai compris l'emprise du patriarcat dans notre société. Qu'en fait, il y a plein de disquettes qu'on pense totalement féministes qui sont en fait des disquettes du patriarcat. Exemple, c'est dans le livre, hein, mais ça a beaucoup résonné en moi, la pilule contraceptive. Et en fait, dans le livre, elle développe une théorie en disant, en fait, on a pensé que ça libérait les femmes, mais faux, ça libérait les hommes.
Bah, c'est clair.
Et il y a plein de choses comme ça qui ont été déconstruites. Par exemple, il y a l'archétype de la doula. Et dans Rêver l'obscur, elle nous explique que, tu vois, d'une façon historique ancestrale, c'était les femmes qui accouchaient d'autres femmes et que c'était beaucoup doux, beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat. Ouais. Déjà, on n'accouchait pas allongé, quoi, sur une table. Enfin, plein de choses comme ça qui sont en fait devenues des violences issues du patriarcat, quoi.
Totalement.
Est-ce que toi, justement, le fait de partager les connaissances ancestrales du féminin sacré au travers de l'école des 13 lunes, est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de sensibiliser, de mettre de la conscience féminine dans un monde qui est quand même englué dans le patriarcat?
Mais absolument. Absolument, et tu vois... ça s'est fait vraiment tout naturellement, c'est-à-dire que je me suis pas réveillée un matin avec une colère et en me disant voilà, il faut que je trouve des solutions, etc. Ça s'est fait tout seul. Et en fait, ce qui est dingue, tu vois, quand tu parlais d'une onde de choc et des ricochets en fait que ça fait, c'est que j'ai l'impression que plus on s'enlève la buée qu'on a dans les yeux et on parle et on libère nos voix et on se raconte, tu vois, entre sœurs, des choses et des prises de conscience. Plus on y voit clair, mais rapidement, et on y voit clair sur des choses qui nous paraissaient pas claires il y a ne serait-ce que 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça va très vite, je trouve, et très fort, en fait. C'est vraiment, c'est incroyable. Et je vois aujourd'hui, tu vois, parfois à des repas de famille, voilà, il y a des personnes d'une génération au-dessus de la mienne, tu vois, qui peuvent faire des petites réflexions qu'on connaît bien. je les laisse plus passer, quoi. Du tout. Du tout. Alors qu'il y a 5-6 ans, bon, je laissais passer parce que je me disais, après tout, c'est son opinion, etc. Et là, c'est impossible de laisser passer. Ouais. Parce que c'est devenu tellement clair pour moi. C'est devenu, tu vois, on arrive à déconstruire, en fait. C'est fou. C'est merveilleux.
Et ce qui est magique aussi dans ce processus d'évolution, d'épanouissement, d'expansion d'âme liée au féminin sacré, c'est qu'en fait, en même temps, un peu comme un arbre avec ses racines et ses feuillages, on se connecte à notre vulnérabilité et à notre puissance. Et on a vraiment l'impression que les deux grandissent ensemble. C'est toujours hyper délicat, Alexandra, de se connecter à sa vulnérabilité parce que c'est un saut dans le vide. Comment tu arrives à accompagner les femmes à y arriver?
Bon, déjà, on ne peut pas parler de puissance et de vulnérabilité sans citer Camille Sfez, qui a écrit La puissance du féminin et qui, là, vient de sortir un deuxième livre qui s'appelle Vulnérable, justement. Parce que, voilà, Camille Sfez, elle explique, en fait, que la puissance du féminin est dans sa vulnérabilité, en réalité. Tu vois, la puissance du féminin, c'est d'être vulnérable, finalement. C'est là où on va trouver notre puissance, parce que finalement, la vulnérabilité, c'est la partie de toi-même qui est fragile et que tu caches et que tu masques et que tu déguises. Et ça te demande des efforts tu vois, immenses, de masquer, de déguiser, etc. Et en fait, une fois que tu arrêtes de masquer et de déguiser, eh bien, tu rentres dans ta puissance parce que c'est fini, en fait, tu vois. Il n'y a plus besoin de tous ces murs, de toutes ces barrières, etc. Et là, en fait, tu es dans ton intégrité, tu es dans ton entièreté, tu es dans ton authenticité. Tu n'as plus peur, tu vois, tu n'as plus peur d'être démasqué parce que ça y est, tu es nu et connecté à toi-même, connecté à 100% à toi-même, et que les gens t'aiment ou que les gens t'aiment pas, tu es là. Tu vois, donc c'est vrai que alors comment j'accompagne les femmes, je pense que ça, pour le coup, ce sont les cercles de femmes qui font la magie de tout ça, en fait, hein. Il suffit qu'une femme, on pose le cadre évidemment de cette vulnérabilité en expliquant qu'elle est la bienvenue, que les émotions sont les bienvenues, etc. Mais en fait, il suffit juste d'une femme, tu vois, en cercle de femmes, il suffit qu'une femme se mette à nu sur ses émotions, sur son cœur, etc., pour que d'un coup, bon, bah évidemment, tout le monde pleure, et puis que d'un coup, tout le monde ait envie de se livrer ou est besoin de se livrer, tu vois. Et puis la magie se fait naturellement.
Waouh. Mais les cercles de femmes, c'est assez exceptionnel. Bon, moi je suis d'une famille maghrébine et j'ai envie de te dire que les cercles de femmes, c'est un peu culturel, quoi, chez nous. Il y a toutes les générations qui sont mélangées, puis ça parle. Bon, souvent ça critique les hommes, donc c'est beaucoup trop drôle. Et puis ça parle, voilà, de tous les problèmes de grossesse, de fertilité, de elle arrive pas à se marier, de nanana. Et en fait, on a toujours l'impression que quand on sort de ce jeu, que c'est thérapeutique, en fait, parce qu'on se nourrit des expériences des unes et des autres et on libère toutes les choses. Voilà. En fait, on a l'impression que quand une femme libère en elle un point de tension, un trauma ou quelque chose, on a l'impression qu'elle le retire de la conscience collective des femmes. Et qu'elle allège du coup un espèce de cloud global avec une histoire qui est en fait en résonance avec des milliers d'histoires. D'où vient le pouvoir thérapeutique des cercles de femmes, Alexandra?
Mais de ça, justement, en fait, alors c'est encore une fois, tu vois, je vais citer Camille Sfez, mais Camille Sfez, elle l'explique que c'est la médecine de la parole, que la parole, c'est une médecine. D'ailleurs, tu vois, le mot voix et le mot voix, donc pour les cordes vocales, ou voix pour le chemin, c'est le même mot, en fait. Donc, libérer sa voix ou trouver sa voix, VOIX ou VOIE, c'est le même mot, donc c'est le même chemin, en fait. Et quand on arrive à exprimer, tu vois, sa parole, c'est comme si, voilà, on exprime sa voix, on exprime notre nature, notre mission, ce qui est juste pour nous, notre vérité, tu vois, et notre légitimité. Donc, et ça, c'est une médecine pour des femmes qui ont été mutées dans le sens mute, tu vois, mise en sourdine. Pour des femmes qui ont été mutées et mises en sourdine depuis des siècles et des siècles, c'est hyper puissant. C'est une médecine qui est hyper puissante de juste pouvoir dire les choses. Et puis de toute façon, on le voit bien aujourd'hui, on apprend beaucoup d'outils de communication non violente, etc. Et moi, je m'entraîne beaucoup à ça, même dans ma vie personnelle, tu vois. Je vois parfois des petits conflits qui peuvent, tu vois, des disputes qui peuvent survenir avec mon mari. Et ensuite, je reprends en disant, mais tu vois, il aurait suffi qu'on se dise ça comme ça et ça comme ça. Mmh. Et d'un coup, il y a tout le feu, là, le volcan qui s'apaise. Et
oui.
Donc, c'est la médecine de la parole, elle est d'une puissance extraordinaire. Une fois qu'on connaît les outils, tu vois, parce qu'il y a une façon, évidemment, de communiquer, on peut aller très, très loin avec.
Comment faire en sorte, justement, parce que tu abordais les conversations, les disputes qu'on peut avoir en couple, comment on peut amener les hommes à la compréhension de ce qu'est le féminin sacré? Comment on peut les faire rentrer dans la danse?
Je pense que pour les faire rentrer dans la danse, il ne faut, faut pas faire de stratégie. Il ne faut pas manipuler. Il faut juste vivre pleinement soi-même, son propre féminin sacré, tu vois. Et puis petit à petit, ils sont là et ils regardent d'un petit œil. Tu vois, ils font comme s'ils ne regardent pas, mais en fait, quand tu es en train de faire brûler ta sauge après une dispute ou parce que c'est la nouvelle lune ou la pleine lune ou que je ne sais pas quoi. Tu vois, moi, il m'arrive aussi de nettoyer mes vêtements. Tu sais, je les nettoie bien sûr à la machine à laver. Mais j'aime les nettoyer énergétiquement aussi, tu vois, en fonction de ce que j'ai vécu avec. Donc, je vais lui dire, tu sais quoi, je vais reprendre cette robe-là, je vais la nettoyer, je voudrais la resetter à cause de ça. Donc, tu vois, et je sais qu'il me regarde comme ça d'un petit œil au début douteux et jusqu'à ce que, voilà, il rentre dans la danse. Et là, moi, j'ai un mari.
Jusqu'à ce que ça soit lui qui demande, cette chemise,
c'est lui.
Tu peux me la nettoyer énergétiquement.
C'est exactement ça. Là, c'est exactement ça. J'ai un mari qui me demande de lui tirer les cartes, j'ai un mari qui, quand on se dispute, j'ai même pas le temps de finir la dispute qu'il est déjà en train d'allumer la sauge. Tu vois, genre, je suis en train de nettoyer toutes les énergies de la maison. C'est trop drôle, tu vois. Et en réalité, I always did my thing. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours fait mon truc. C'est mon truc, tu vois, et je le fais. Et puis, en le faisant, je pense qu'en voyant que je m'épanouis, que j'imagine que, voilà, que ça fonctionne. Et bien, petit à petit, il s'est ouvert à tout ça et ça lui plaît énormément, tu vois. C'est déjà arrivé plein de fois pour ses voyages qu'il me demande de lui faire des petits sacs remplis de pierres avec certaines pierres particulières pour protéger son voyage. Enfin bref,
Donc,
voilà, que ce soit les maris, la famille ou les enfants, en réalité, ils peuvent tous être très, très sensibles à ça. Du moment que faut vraiment le vivre pleinement et de
dans
façon
la lumière.
Très autant... Ouais, avec de la joie et de la beauté aussi, tu vois. Il m'est déjà arrivé en famille de faire des mandalas de fleurs parce que, parce que je trouvais ça beau, quoi. Il y avait des pétales, il y avait des fleurs dans le jardin, donc j'en ai récupéré, puis j'ai fait un grand mandala dans le jardin, et puis d'un coup, ça attire tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu le fais? Je sais pas, parce que c'est beau, et toi, qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai envie de célébrer les saisons, tu vois. Et hop, ça se fait tout seul.
En fait, quand on est aligné, et en fait, quand notre entourage nous voit faire des choses qui sont peut-être un petit peu décalées pour eux, ou voilà, qu'ils ont jamais vu de leur vie, quand ils voient que ça a du sens pour nous, et qu'on le fait avec amour, et que ça nous fait du bien, et qu'on partage aussi avec eux, ça change beaucoup de choses, en fait. Et j'aime bien quand tu dis faire ces choses, faire ce qui nous fait du bien à nous, ce qui résonne avec nous. Et si les gens sont intéressés, on leur explique, s'ils posent des questions, puis s'ils nous jugent, ça leur appartient à eux, ça ne nous appartient pas à nous. Et c'est vrai que ça, c'est hyper libérateur. Moi, je me rappelle que les premiers livres que je lisais sur les magiciennes, sur les sorcières, des choses très lumineuses, mais je me cachais pour les lire. J'étais mal dans le métro, par exemple, j'allais pas lire un livre sur ces sujets là et maintenant tout a changé.
Maintenant c'est l'ambiance. Je me rappelle que j'avais acheté le livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, et qui est blanc, tu sais, il y a marqué sorcière en rouge, en énorme et tout. Et combien de fois est-ce que dans le métro j'étais tellement fière de le lire, et en fait je voyais les femmes, tu vois, qui te regardent, elles croisent ton regard, et puis après, elles voient le livre, et là, elles regardent. Tu sais, elles veulent pas te montrer qu'en fait, elles sont en train de noter le titre, quoi, parce qu'en fait, ça attire tout le monde. C'est trop drôle.
Mais c'est très marrant. Mais c'était quand j'ai pris l'avion, là, pour venir au Mexique, il y avait une femme qui lisait un livre avec écrit « witch » en gros dessus.
Ouais.
Et il y avait un homme qui passe et qui lit la couverture, et il a eu un petit sourire. Coin, et j'ai adoré cette interaction.
Ils adorent. Les mecs, en réalité, ils adorent les witches. Parce que je l'ai ce livre. C'est un livre noir avec marqué witch dessus. Et c'est Lisa Lister qui l'a écrit. Et je ne peux que vous le recommander. Il est incroyable, ce bouquin. Il est génialissime. Et ça aussi, pareil, dans le métro, je me suis régalée à le lire dans le métro aussi.
Ah, c'est super drôle. Bah, c'est ça aussi, se connecter à sa puissance, en fait. C'est voilà. Voilà, bah oui, ça m'intéresse. Je développe ces capacités en moi. Et
Ouais.
je sais
J'en
que
ai
ça
pas
peut impressionner, faire peur ou quoi que ce soit, mais je l'assume. Voilà.
Ouais, mais tu sais, après ça, c'est aussi la blessure de la sorcière, tu vois. C'est quand on a un peu peur et qu'on a un peu honte et qu'on a ce réflexe de vouloir cacher notre
Oui.
magie, tu vois. Et ben
Oui.
ça, il faut savoir que c'est pareil, hein. C'est du transgénérationnel. C'est on a
Oui.
hérité, c'est de l'inconscient collectif féminin de la chasse aux sorcières, tu vois. Voilà, les femmes ont été torturées, mutilées, tuées,
Oui.
assassinées. Parce qu'elle faisait de la magie. Donc, c'est vrai
Oui.
que ton réflexe, tu vois, spontané,
Oui.
intuitif, primordial, c'est si je fais quelque chose d'un peu magique, il faut pas que je le montre. Ça doit rester secret.
Totalement. Mais ça résonne tellement, Alexandra. Excuse-moi de te couper, mais
Non, je t'en
c'est
prie.
en fait ça. Tu vois, par exemple, moi, au début des années 80, quand j'avais 7-8 ans, dans la bibliothèque de ma maman, il y avait plein de livres de numérologie, d'astrologie. Et moi, en me reconnectant, tu vois, à cette partie-là de mon féminin, je me suis souvenue, je me suis dit, mais en fait, ma mère, dans les années 80, il n'y avait pas Internet, elle lisait déjà des bouquins sur tout ça, elle le faisait et tout. Et du jour au lendemain, ça a disparu. Donc, je lui ai dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, maman, tu t'intéressais à tout ça dans les années 80, pourquoi ça t'a pas suivi, en fait? Elle me dit, parce que quand je me suis installée au Maroc avec ton père, ses nièces m'ont dit que c'était péché, en fait. Que je sortais
Combien
de
de fois tu t'es
l'islam
entendu ça?
et je me suis dit waouh, mais est-ce que ça t'intéresse toujours et tout? Parce que vas-y, si ça te plaît. Et en fait, en voyant que moi je m'intéresse à ces sujets et que je fais d'une façon totalement décomplexée, et là elle commence à y revenir. Donc c'est plutôt cool, je trouve.
Oh là là, c'est merveilleux parce que j'entends beaucoup ça justement dans les pays d'Afrique du Nord ou même voilà, dans d'Afrique du Nord principalement, tu vois, surtout pour les tirages de cartes, tu sais, les oracles, ces
Eh
péchés,
oui,
ces
mais bien
blessures de
sûr.
cartes,
Eh oui.
alors qu'il y a un nombre de guérisseuses marocaines, tunisiennes, enfin tu vois, en réalité, ces femmes-là,
Oui.
elles sont tellement connectées, c'est des vrais, c'est des médiums, quoi, vraiment,
C'est
tu
des
vois.
médiums, des chamans, bien sûr, c'est des
Mais
guérisseurs.
complètement. Donc j'arrête pas de
Ouais.
leur dire non mais meuf, tu peux pas ne pas tirer les cartes. T'as des dons féminins qui sont incroyables, il faut vraiment que tu tires les cartes.
Ben ouais, mais moi j'ai souvent ces questions-là parce que voilà, je m'appelle Amel et que
Ouais.
dans les personnes qui m'écoutent, voilà, il y a des personnes qui sont d'origine juive ou musulmane et qui me demandent, mais comment t'as fait pour passer le pas? Parce que voilà, c'est pas évident quand on est dans le dogme et qu'on nous explique que tout ça c'est diabolisé. Et tout ce que, comment
Ouais.
t'as eu le courage? Et je lui dis, bah déjà j'ai une grande grande curiosité et que j'aime bien me faire ma propre idée sur les choses et que j'ai compris comment, à quoi, à qui je me connectais en fait et que en fait avec le pouvoir de la conscience et qu'on a notre libre arbitre et qu'on a la possibilité de se protéger et de se connecter vraiment à des sphères très lumineuses, hautement lumineuses. Puis moi souvent je me connecte à la version suprême d'Amel, à ma
Ouais.
version évoluée, ma version du futur qui a voilà accès à plein de connaissances que je n'ai pas là moi dans cette
J'adore.
incarnation en 3D. Et
Ah,
donc
merci
du coup ça sécurise vachement les gens.
de me rappeler. Mais tu sais, quelque part, t'imagines quand même une religion qui dit que tu ne dois pas pratiquer autre chose. Enfin, je veux dire, c'est comme un régime totalitaire politique, quoi.
Mais
Enfin, tu vois,
bien
c'est.
sûr,
Enfin, je veux pas ouvrir le débat, mais quand
c'est une
même, enfin.
dictature spirituelle.
C'est une
Bah oui,
dictature
c'est clair.
spirituelle de taré, enfin, tu vois. Et
Bien
après,
sûr.
bon, moi, je me rabats, enfin, je dis tout simplement que voilà, c'est de la spiritualité, en fait. C'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Comment
Exactement.
est-ce que je me relie au spiritus, tu vois, c'est-à-dire à l'esprit, tu vois, aux forces de la nature, à ce qui est plus grand que moi. Comment est-ce que je
Oui.
me relie à ce qui est plus grand que moi et comment est-ce que je fais vibrer et vivre ce qui est plus grand que moi dans ma vie, à l'intérieur de mon cœur, tu vois? Donc, la
Exactement.
nature, l'océan, le vent, tout ça, il n'y a rien de plus naturel. En réalité,
Mais oui.
les traditions païennes, elles étaient, je sais pas, elles sonnent quand même très, très juste, quoi.
Bah
Vraiment.
oui, on est d'accord.
Elles sonnent très, très juste. Spiritualista. c'est juste qu'il y a des moments où on peut croire qu'on vit pas dans le même monde, ni même dans le même espace-temps, tu vois. De se dire qu'au même moment sur la planète, il peut y avoir des croyances aussi, tu vois, aussi, enfin, oui, où on dirait qu'il y a 100, 200, 300 ans qui séparent, quoi.
Tu vois. Mais t'as complètement raison, c'est exactement ça. On est sur la même planète, mais on n'est pas dans les mêmes dimensions. Et parfois, on va de l'une à l'autre et on voyage sur l'interdimensionnalité. C'est exactement ça. Tu as très bien résumé la chose. J'avais une question que j'avais notée. C'est un peu personnel, mais tu es libre de pas y répondre. Je sais que tu as deux filles maintenant. Oui. Et j'aimerais savoir si au travers de l'éducation que tu leur transmets, il y a justement cette touche d'éveil au féminin sacré. Comment tu procèdes ? Comment tu mets de la magie dans ton éducation ?
Là, c'est un peu pareil. Hein, tu vois, j'essaye de faire mes affaires. Et après, si ça leur plaît, évidemment, je suis à leur dispo. Quoi. J'ai ma grande fille, Sienna, celle qui a 10 ans, elle est plutôt en mode réaction. Donc, elle se construit en opposition à moi. Donc, c'est D'accord. vrai que… Donc, voilà. Donc, le yoga hors de question, la méditation hors de question, le titre de mon dernier livre, « Non, franchement, maman, ça ne sert à rien que tu m'en parles », tu vois, elle est en opposition totale. Donc, voilà. Bon, après, quand elle est malade, elle me demande quand même des pierres et elle me demande de lui faire du Reiki. Et voilà, elle y croit quand elle est malade que ça ne va pas. Mais sinon, dans le quotidien, elle veut vraiment pas me montrer que ça l'intéresse, quoi. Donc c'est rigolo. En réalité, je la laisse se construire comme ça. Je pense que c'est important pour elle. Et puis on en reparlera dans 15 ans. Mais voilà. Mais après, de toute façon, je suis à la maison. Tu vois, forcément, hein, à la maison, j'ai tous mes instruments. Il y a des fleurs, il y a des pierres partout. Enfin bref. Donc elles évoluent forcément dans ce contexte. Et par contre, Ella, qui est beaucoup plus petite, elle a que 7 mois, elle est très, 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 très réceptive. Très, très, très réceptive. Donc, elle, pour le coup, je pense que elle a peut-être choisi sa famille parce que ça lui plaît déjà. Je vois dès que je peux l'amener avec moi. Je l'amène souvent en cercle de femmes. Je l'ai déjà amenée à une retraite de yoga. Je l'ai déjà amenée à des sound baths. Les sound baths, c'est quand même des voyages sonores au bol de cristal. Ouais. Donc, normalement, tu te dis, un bébé, c'est pas possible parce que si jamais elle pleure, elle va réveiller tout le monde. Et en fait, elle fait pas un bruit. Pas un bruit pendant le voyage sonore parce que je pense qu'elle en profite pleinement. Donc non, elle a l'air très très intéressée. À confirmer aussi, mais non, écoute, tu vois, pareil, j'essaye de vivre pleinement ce que je fais. Et puis après, chacun, tu vois, ça vibre ou ça vibre pas. Il y a vraiment pas de voilà, c'est très libre quoi.
Carrément. Tu me parlais justement de ta grande fille du coup qui se construit en opposition. Est-ce que tu as l'impression, ça me fait penser à ça, que le pouvoir des cercles de femmes, de cette sororité, est-ce qu'elle se construit aussi un peu en parallèle de, tu sais, cette culture des boys clubs anglo-saxonnes, des réunions entre mecs et dans les écoles de business school, des choses comme ça et tout. Ouais. Est-ce que on est un peu sur un truc qui se construit en face à face?
Alors, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, mais j'ai pas le sentiment que ce soit comme ça parce que dans les cercles de femmes, on n'est pas, on fait pas de généralité sur les hommes. On dit pas oui, heureusement qu'on est entre femmes parce qu'alors là, avec les hommes, on pourrait pas parler de ci, on pourrait pas parler de ça. On n'est pas du tout sur cette prise de position là. On est vraiment, en réalité, on est entre femmes parce que pour l'instant, il y a trop de blessures et on a besoin de se guérir entre femmes pour le moment. C'est vraiment ça que je ressens. C'est plus le fait que les blessures sont encore à vif et on a besoin de cette intimité. Mais je nous vois bien petit à petit, tu vois, se transposer et passer sur des cercles mixtes. Il y a déjà pas mal de femmes qui sont en train de le faire, qui sont en train de proposer des cercles mixtes parce que finalement ces blessures du patriarcat, elles sont très présentes et à vif chez les hommes aussi.
Aussi.
Donc il va y avoir un moment et je pense que ce moment est vraiment en train d'arriver. Tu vois, j'ai des petits picotements dans le crâne quand je te dis ça. Mais je pense qu'il va y avoir ce moment où on va pouvoir guérir tous ensemble. Le vocaliser, donc vraiment dire quelles sont nos blessures, être vu, être entendu et guérir tous ensemble de ces blessures du patriarcat. Mais donc, je le vois pas comme un truc genre féministe, ouais, c'est nous de notre côté, c'est vous du vôtre, parce que je vois vraiment ce cercle, à un moment donné, s'ouvrir et inclure les hommes, quoi. Tu sais, il y a des personnes qui travaillent avec les hommes sur la même chose, en fait, et c'est sublime, c'est sublime. Je vois des extraits de retraite d'hommes où, tu vois, où les hommes peuvent pleurer et pleurer parce que quand ils étaient petits, ils n'avaient pas le droit de pleurer et parce que leur papa ne leur a pas dit je t'aime, et donc eux ils ont honte aujourd'hui de ne pas réussir à dire je t'aime à leur enfant, tu vois, et tu les vois tous se lâcher et se libérer en fait de tout ça, de toutes ces injonctions terribles dans lesquelles les hommes ont aussi été très emprisonnés.
Bien sûr.
Donc vraiment, on arrive vraiment à cette ère-là. Hein.
Ah, j'adore, c'est trop chouette.
Ah, ça va être, je sens vraiment que ça va être très très beau sur les 5-10 prochaines années. Il va y avoir des belles ouvertures du cœur. Hein.
On va se retrouver avec des couples de déesses et de dieux, puis ça va être on va atteindre un autre niveau d'amour.
Ouais, totalement.
J'ai aussi vu que cet été, enfin il y a quelques semaines, tu as orchestré un mariage. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau, en fait, de se réapproprier le sacré, de créer ses propres rituels. J'ai vu que sur ton site, il y a aussi les Blessing Ways. C'est des nouvelles façons de ritualiser. Voilà, quand une jeune fille a ses règles pour la première fois, enfin créer ses portails énergétiques quand on passe d'un monde à un autre. Est-ce que tu peux plus nous en parler? Parce que moi, j'adore.
Ah, bah oui, c'est ça en fait, c'est que à un moment donné, une cérémonie, enfin, il faut y croire en fait, il faut aussi qu'on convoque les protections, tu vois, et les forces de la nature qui ont du sens pour toi, et il faut que le rituel, il ait du sens pour toi. C'est fou, je trouve, de se marier et que le rituel du mariage, par exemple, ne te parle pas. En soi, tu vois, tout ce que le prêtre, par exemple, te demande de faire, si ça te parle pas spécialement, c'est triste quelque part de vivre une cérémonie qui, au final, te parle pas. Alors, peut-être que la cérémonie te parle parce que t'aimes l'église dans laquelle t'es, ou parce que les invités, les personnes que t'as invitées, voilà, te rendent heureuse, etc. Mais si le rituel en soi, tout le symbolisme des rituels ne te parle pas spécialement, c'est triste. Et puis, du coup, je me dis, est-ce que ça enlève pas aussi de la valeur à ce que t'es en train de faire, tu vois? Est-ce que les vœux qu'on se prononce en tant que mari et femme, si tout le rituel qui entoure ça n'a pas spécialement de sens, est-ce que du coup, il s'est vraiment passé quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je trouve ça très, très puissant de s'asseoir. Tu vois, moi, je me suis vraiment assise avec Carla et Jean. Ils s'appellent Carla et Jean. Bon, Carla est une amie, évidemment, mais on s'est vraiment assis ensemble et on s'est dit, OK, alors à quoi elle va ressembler, cette cérémonie? Qu'est-ce qu'on veut comme ingrédient dedans? Qui on veut convoquer? On a convoqué, tu vois, toutes les directions, tous les éléments, les gardiens de toutes les portes. Mais parce que ça avait du sens pour eux, énormément de sens pour eux. Et du coup, c'était très très puissant pour eux, en tout cas. C'était je pense qu'ils s'en souviendront évidemment à jamais.
Même pour les invités,
pour les invités aussi. Donc ça, c'est merveilleux. Et après, les Blessing Ways, c'est la même chose, en fait. Ce sont des rituels et des cérémonies qu'on va tenir à des moments précis de la vie d'une personne pour venir bénir son chemin de vie, tu vois, pour vraiment venir honorer, marquer et bénir un passage de vie. Donc, tu en as cité quelques-uns, mais en réalité, on peut faire des Blessing Ways pour beaucoup de choses, hein, tu vois, pour n'importe quelle transition dans notre vie. Mmh. Et ça, généralement, on les fait entourés de nos proches, quoi.
Pour tous les invités que j'ai dans Spiritualista, je pose toujours la même question à la fin. J'aimerais connaître, sur le plan pop culture, donc livres, séries, comédies musicales, tout ce que tu veux, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a boosté, toi, dans ton éveil de conscience?
Moi, ce qu'il faut savoir quand même, Amel, c'est que, j'ai pas eu accès à beaucoup de pop culture quand j'étais petite. Et je me demande si c'est pas ça aussi qui a été une grosse source d'inspiration. Tu sais, j'ai grandi en Afrique et donc de l'âge de 2 à 12 ans, j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, et on n'avait pas la télévision. Réellement, j'ai pas eu accès à beaucoup de... Voilà, je sais que quand je revenais en France pour les vacances, pour voir ma famille, j'étais vraiment à l'ouest. Vraiment. Tu vois, j'avais pas de référence musicale, pas de référence culturelle. Mais je pense que ça a joué, d'être bercée par les vagues de la mer, le vent, le lever de la lune. Finalement, que ma musique, ce soit, le vent dans les cocotiers, et que ma série télévision, ce soit le coucher de soleil et le lever de la lune. Je pense que ça a eu un impact hyper puissant. Après, voilà, après le premier dessin animé que j'ai vu un peu plus tard, du coup, mais c'était la première fois que j'allais au cinéma de ma vie, je crois que j'avais 11 ans, tu vois, donc j'y suis allée tard, hein. C'était La Petite Sirène. et ça m'a marqué, mais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment l'histoire de La Petite Sirène, c'est vraiment... Non, mais parce que je pense que, je sais pas, tout le mythe, tu vois, des sirènes, je suis très, très reliée à l'élément de l'eau, donc ça me parle énormément, en fait, la prêtresse de l'eau, tu vois, ça me parle énormément. Et je pense que c'est son, tu sais, enfin, sans rentrer dans tous les détails, mais tu sais, elle signe un pacte où on lui enlève sa voix, tu vois, pour trouver l'amour. Ouais. Et ça me parle énormément qu'à un moment donné, si on t'enlève ta voix, et ben on t'enlève toutes tes vibrations et tu peux plus exprimer ta vérité. Et donc tu peux presque perdre tout ton amour pour la vie et pour ta flamme jumelle, quoi. Donc vraiment, il était. Je me rappelle que le dessin animé m'avait presque traumatisée, où je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle a signé ce papier? Pourquoi est-ce qu'elle a signé ce papier?
C'est violent. Ouais.
En fait, j'ai l'impression qu'en tant que femme, dans notre société patriarcale, il y a eu beaucoup. Dans cette société, il y a eu beaucoup de moments où on a fait ça. Tu vois, où on a signé un contrat, où on s'est dit, tu sais quoi, je vais faire semblant, je vais mettre des masques, je vais accepter les codes pour être bien vue, pour être la gentille fille qui parle pas et qui dit rien. Et comme ça, je fais plaisir à tout le monde. Et voilà. Et c'est en ça que La Petite Sirène m'a beaucoup inspirée.
Non, mais c'est passionnant. Et en plus, voilà, sur le plan structurel là, de notre société, on est carrément dans l'ère du consentement, où en fait, on va nous demander notre consentement à chaque étape. Et on va être comme la petite sirène. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on fait les choses pour de bonnes raisons? C'est la vraie, ce sera les vraies questions du futur. Merci Alexandra pour d'avoir passé cette heure avec nous sur Spiritualista. Merci mille fois.
Et c'est moi qui te remercie, Amel. Et vraiment, je te félicite pour ton podcast qui est extraordinaire. Et j'adore le fait que ce soit un podcast dans lequel tu exprimes aussi ton évolution et ta vérité et tout ton parcours et tout ton cheminement, parce que c'est comme ça, en fait, hein, qu'on partage. Réellement.
Bien sûr.
Les uns avec les autres. Donc, bravo. C'était un honneur pour moi d'être en ta compagnie. Et on se retrouvera alors pour les archétypes printemps-été.
l'année prochaine. Je serai là. Carrément, je serai là. Merci mille fois, Alexandra. Je t'embrasse bien fort.
Moi aussi, je t'embrasse bien fort. Bye bye.
Ciao.
C'est tout pour cet épisode 35. J'espère qu'il vous a plu autant que j'ai pris plaisir à interviewer Alexandra Frida Marti. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure, je vous recommande ces deux super livres. Il y a d'abord Femme prêtresse aux éditions Le Duc et Zo et Cercle de Lune aux éditions Secret d'Étoiles, où vous allez pouvoir retrouver plein de rituels puissants pour réveiller la déesse qui sommeille en vous. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de votre podcast préféré sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter à moi au travers des séances privées Vibréo que je vous propose sur mon site spiritualista.fr. Le calendrier pour 2022 est ouvert. Voilà, sur ce, je vous souhaite de parfaitement, merveilleusement terminer l'année. Et nous, on se retrouve en 2022 pour vivre encore de fabuleuses aventures et poursuivre notre expansion de conscience ensemble. Je vous embrasse fort.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.